L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Bertrand Rich à propos de la 5e édition du Salon alsacien de généalogie qui se tiendra à Châtenois, à l'espace Les Tisserands précisément. Ce sera les 14 et 15 février prochains. Bertrand Rich, bonjour.
Oui, bonjour Valérie.
Alors, vous, je vous avais déjà reçu, vous êtes veilleur de mémoire au cimetière juif de Fegersheim et vous faites partie de l'équipe de rénovation du cimetière. C'est pareil, ça a fait l'objet d'une émission. On vous retrouve aujourd'hui organisateur d'un salon de généalogie. À quel titre? Vous faites toujours partie, vous, de l'association du Cercle généalogique d'Alsace?
Oui, tout à fait. J'étais président pendant quelques années et ma foi, mes diverses obligations ont fait que j'ai arrêté cette fonction. Je suis président d'honneur et j'organise toujours les salons de Châtenois. C'est le 5e que j'organise et voilà, on espère que ça se passera bien.
Alors, différents cercles de généalogie, d'associations se réunissent ce jour-là. C'est quoi l'objectif? C'est de s'ouvrir au public, de présenter vos associations ou c'est vraiment une rencontre entre vous afin de nourrir les archives les uns des autres?
Non, c'est plutôt pour ouvrir au public qui ne connaît pas nécessairement la généalogie ou alors le public qui connaît mais qui veut se renseigner un petit peu plus avant. Toutes ces associations représentent peu ou prou toute l'Alsace. Il y a aussi quelques associations qui sont limitrophes, comme quelques Lorrains qui vont venir, des Suisses, et puis même une association, une dame de Monaco qui vient, parce que dans la région du Grand Sud, il y a aussi du monde. Donc on s'ouvre à un public très large qui peut venir s'informer, les gens qui veulent faire leur arbre généalogique, par où on commence, comment on fait, tiens, je viens de tel village, ah ben, faut aller voir telle association, on les aide un petit peu à trouver leur chemin dans tout ça. Voilà, ça c'est l'aspect des stands et des exposants qui sont très alsaciens. Il y a des archivistes aussi, des archivistes professionnels, il y a du monde comme ça.
Parce qu'en fait, tout ça c'est un maillage qui se recoupe. Les associations de généalogie ont besoin des archives pour nourrir justement les documents avec lesquels ils vont orienter le public pour créer par exemple un arbre généalogique ou rechercher un descendant.
Oui, il est nécessaire d'aller toujours aux sources, ça c'est le plus important, c'est que tout généalogiste doit aller sur les actes eux-mêmes qu'on trouve aux archives départementales, qui sont numérisés, donc on les trouve aussi sur le net. Mais il faut bien partir du principe qu'il faut aller à la source pour trouver les renseignements. Une date n'est valable ou validée que dès lors qu'on l'a vraiment lu et qu'on l'a eu devant les yeux. Et non pas recopier d'un arbre généalogique du voisin de la concierge qui a fait son arbre généalogique. Mais
il faut recommencer à zéro.
Voilà, il faut recommencer. Bien sûr, c'est une piste quand on a des informations de quelqu'un qui vous dit « Tiens, moi j'ai cet ancêtre-là et j'ai toutes ces son ascendance, ok, c'est sympa, mais conseil, vérifiez tout.
Comment est-ce qu'on commence un arbre généalogique? Le point zéro, c'est soi, et on revient sur ses aïeux et on remonte petit à petit, ou est-ce qu'effectivement on a le nom d'un aïeux, un arrière-arrière-grand-père, quelque part dans un arbre généalogique, et on essaye de voir son épouse, sa filiation, parce qu'en fait un arbre généalogique est multiple, chaque union donne lieu presque à deux arbres généalogiques des deux côtés du mari et de la femme.
Oui, alors là, il y a deux questions dans votre question. Donc, par où on commence? Oui, effectivement, commencer par soi ou en fonction de l'âge qu'on a, on commence par son fils ou son petit-fils parce que, du coup, on récupère la généalogie paternelle et maternelle. Donc, voilà, les points de départ sont essentiellement ça. Et en général, on commence aussi par les arbres généalogiques, ce qu'on appelle montants, c'est-à-dire parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Alors, par où on commence? Bien sûr, on a nos propres renseignements. Si je commençais par moi, maintenant, je sais quand je suis né, j'ai les dates de naissance de mes parents, les lieux de naissance, j'arriverai facilement à trouver mes grands-parents et au pire, pour les cas très difficiles, ben, vous allez fouiller dans votre grenier, vous trouverez une vieille boîte de biscuits avec des photos, des dates, un vieux livret de famille, un passeport, enfin récupérez déjà tout ça. Si vous avez la chance d'avoir des grands-parents, interrogez-la. Mais là, on revient au cas de tout à l'heure. Les dates qui vont dire, il faudra bien les vérifier parce que la mémoire n'est pas infaillible. Donc voilà, on débute un petit peu comme ça en rassemblant tous les renseignements qu'on a. Et puis dès qu'on a passé à peu près 75 ans, c'est-à-dire deux générations au niveau des grands-parents, ouais. Ben, on arrive dans les archives physiques, donc dans les textes. Et là, ma foi, c'est des associations, si vous n'avez jamais fait de généalogie, c'est les associations qui pourront vous aider pour vous dire comment procéder, pour avoir de la méthode, des techniques, pour aller vite, pour ne pas se tromper. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fait.
Aujourd'hui, moi, je veux faire un arbre généalogique. En partant de moi, je peux me rendre aux archives départementales, par exemple, et de mon nom, je peux remonter comme ça sur plusieurs générations, où ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que déjà, est-ce qu'ils nous reçoivent dans ce cadre-là, ou est-ce qu'il faut faire des demandes par écrit ?
Non, en fait, si vous commencez par vous, il faut avoir un petit peu plus de renseignements. Les archives sur le net sont consultables jusqu'à 1912, donc l'idéal est d'avoir une date au-delà de 1912, donc c'est nécessairement au moins un parent, souvent un grand-parent, qui a une naissance ou quelque chose au-delà de 1912. Je parle bien du Bas-Rhin, hein, là, essentiellement. Oui. D'autres départements, les dates sont un petit peu fluctuantes. Donc, si vous avez une date avant 1912, aucun problème, vous restez chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller aux archives départementales, vous restez chez vous, vous allez sur le site des archives départementales, vous sélectionnez la commune dans laquelle vous avez ce renseignement, et puis c'est comme si vous étiez devant une bibliothèque, c'est il y a un registre de naissance, un autre de décès, un autre de mariage, et année par année. Donc vous feuilletez, comme aux archives, et vous tombez sur l'acte de naissance, de mariage ou de décès que vous avez en tête. Et vous reprenez toutes les informations qui sont là-dedans, et là c'est Colombo, vous avez gagné. Voilà.
On peut remonter jusqu'à quand, à quelle période, aux archives départementales? Vous avez l'idée, vous, du plus vieux document?
Ah ben là, on va en parler tout à l'heure parce que notre marraine, c'est Cécile Wolfrom qui sera au salon de Châtenois. Donc j'ai fait son arbre généalogique.
Miss Alsace 2021.
Voilà, et vainqueur du Pékin Express. Donc elle sera là tout le samedi parce qu'elle a des obligations le dimanche. Donc j'ai fait son arbre généalogique et on remonte très loin. Alors je ne vais pas tout spolier parce que voilà, mais il faudra venir le samedi pour l'apprendre. Mais elle a des têtes couronnées dans son ascendance. Et ça remonte très très loin. Ça remonte très très loin, au-delà de l'an 1000, etc. Donc on peut remonter très loin dans la mesure où on est dans la noblesse. Mais autrement, il y a trois grands écueils et ils sont tributaires de la religion. Je parle de généralité. Il est bien entendu évident qu'on peut trouver tous les cas particuliers qui peuvent s'opposer à ce que je vais dire maintenant. Mais suivant qu'on soit de religion juive, protestante ou catholique, on n'a pas les mêmes taquets d'arrivée. Les Juifs ont commencé à être enregistrés à partir de la Révolution, de l'État civil. Avant, il y avait les livres de circoncision, mais bon, c'est fragmentaire, il y a des actes de notariés. Là aussi, ça ne reprend pas tout, mais si on parle des actes officiels, c'est donc vers les environs de 1800, où peut-être sont cités les parents, donc on arrive globalement à 1750. Chez les catholiques, c'est Louis XIV. Donc, il est arrivé 1680. Si on a encore une génération d'avant, 1650, c'est-à-dire 100 ans plus loin. Chez les protestants, ils ont commencé en 1550. Donc, encore 100 ans plus loin. Alors, comme ça a l'air anecdotique, mais 100 ans, c'est trois générations. Donc, une génération, on va compter 30 ans pour arrondir. Donc, la première, si vous avez une génération de plus, c'est vous multipliez par 2. Si vous en avez 2, vous multipliez par 4. Et si vous en avez 3, vous multipliez par 8. Donc l'arbre généalogique qui aurait fait un certain nombre de personnes religion juive, il est multiplié par 8 en taille pour les catholiques et encore par 8 pour les protestants. C'est très mathématique, mais sans tenir compte de toutes les particularités. Mais pour vous dire que ça peut aller très très loin, et Cécile Wolfrom a une grande partie de religion protestante, donc un arbre immense.
Aujourd'hui, quand on remonte dans les arbres généalogiques, de retomber sur des personnages remarquables, renommés, voire des têtes couronnées, c'est quelque chose de courant? Est-ce qu'on descend tous à un moment donné d'un chef d'État?
Oui, les Alsaciens, tous cousins. C'était un ouvrage qu'on avait publié il y a 3-4 ans à La Nuée Bleue. Oui, bien sûr, on est tous mathématiquement descendants de Charlemagne. Mais je dis bien mathématiquement pour certains, on trouve le lien. Moi, je ne l'ai pas en ce qui me concerne, mais pour Cécile Wolfrom, on a de fortes suspicions. Mais bon, voilà, je ne vais pas déflorer cette histoire. Mais on peut tomber sur des gens de la noblesse. Moi, je suis tombé, pour prendre mon exemple modestement, mais sur une famille des comtes d'Andelot, voilà. Donc, j'en suis pas plus fier pour autant, mais ça donne une petite touche d'histoire supplémentaire que le simple paysan ou tisserand n'a peut-être pas.
Alors, c'est une question un petit peu naïve que je me pose, et je me suis déjà posée même en amont de cette interview. aujourd'hui, avec les mariages, les remariages, les unions libres, les enfants hors mariage, les familles recomposées, les mariages homosexuels, ça, pour les futurs enquêteurs généalogistes, ça va donner quoi ?
Ben, ça continuera comme maintenant, bien sûr. Les programmes de généalogie sur lesquels on fait des saisies, parce qu'il faut passer par l'informatique pour saisir son propre arbre généalogique. Il faut avoir un programme, on ne peut plus travailler avec des fiches cartonnées, ça c'est terminé. Mais les programmes de généalogie anciens modèles ne permettaient que les mariages hommes-femmes, par exemple, mais dans les nouvelles moutures, il y aura ces possibilités-là. Et l'ordinateur triera tout ça très bien. Et après tout, ce sont deux personnes qui se marient. Bon, est-ce qu'elles sont toutes les deux masculines, féminines, ou est-ce que c'est masculin et féminin ? Une fois que l'ordinateur est paramétré pour tout accepter, ben c'est comme un arbre généalogique traditionnel. Je pense qu'il n'y aura pas plus de difficultés.
Comme les noms de famille, avant c'était forcément le patronyme masculin. Aujourd'hui, il peut y avoir les deux noms, il peut y avoir uniquement le nom des filles. Aujourd'hui, demain, on met des logiciels en place, mais dans 200 ans, par exemple, tout ça, ça va être quelque chose à détricoter. Oui. Ça va être quelque chose à détricoter. Côté qui n'est pas facile pour
ce sera sans doute un petit peu plus compliqué. Mais dans la mesure où lorsqu'on a un acte, on a sa date de naissance et le lieu de naissance, on arrive facilement à remonter. Il suffit d'aller à la mairie du lieu en question et puis on trouvera exactement l'acte pour savoir si c'est un double nom ou si c'est un nom simple, etc. Et dans quel ordre il aura été marqué.
Bertrand Rich, à titre personnel, vous, qu'est-ce qui vous motive dans ces recherches ? Vous êtes un féru d'histoire, est-ce que c'est de la curiosité ? Qu'est-ce qui vous amène à faire ces recherches et puis à continuer ? On va parler après de l'ouvrage que vous venez de sortir sur la généalogie d'Albert Schweitzer. Qu'est-ce qui vous porte ? Qu'est-ce qui vous motive ? C'est le sens de l'histoire ? Ou est-ce que quelque part, c'est peut-être même chercher des choses qui ne sont pas encore connues ?
Oui, il y a toujours on a toujours cette recherche de racines, ça c'est incontournable. Tout le monde ne l'a peut-être pas, certaines personnes peuvent s'en passer. Moi, j'aimais bien un petit peu savoir d'où j'étais issu. Alors, je vous rassure, à part quelques exceptions, c'est beaucoup de paysans, cultivateurs et autres. Ça fait 95% de l'arbre généalogique traditionnel en Alsace, sauf si on est dans des familles un petit peu de grandes villes où c'est un petit peu différent. Mais voilà. Donc, ça, c'est un aspect, les racines. Et puis, monter. Et vous le disiez tout à l'heure partiellement, mais quand on a trouvé un ancêtre, il nous en manque deux. Il nous manque les parents de celui qu'on vient de trouver. Donc en fin de compte, c'est une course, pas une fuite en avant. Le mot n'est peut-être pas totalement juste, mais c'est une course parce qu'à chaque découverte, il manque le double de ce qu'on vient de découvrir. Et on court toujours après, on veut les avoir. C'est comme quand on fait des collections de vignettes Panini, on les veut toutes. Ben, voilà, c'est un petit peu le même principe. On veut l'exhaustivité autant que faire se peut. Donc, on court après et puis il faut tisser des liens parce qu'on n'a pas toujours les facilités de trouver. Mais il faut tisser des liens, d'où l'utilité de se mettre dans des associations généalogiques. C'est très important parce que souvent, on peut y poser des questions et puis on a des réponses, etc.
Donc là, en ce moment, au moment où on parle, vous êtes, vous, dans une enquête et vous êtes à la recherche toujours de noms, de personnes ou de leur rôle dans un arbre généalogique.
Oui, là, mon arbre, globalement, il est terminé. Je pourrais toujours encore fignoler ou du côté de mon épouse ou du mien, mais on va, à un moment donné, il faut clôturer aussi. Alors là, j'étais occupé pendant quelques mois par l'arbre généalogique de Cécile Wolfram, justement, parce que comme il est très grand, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Donc voilà, j'étais là-dessus. Ensuite, il y a eu l'ouvrage d'Albert Schweitzer pour la promotion, la sortie, etc. Et là, je suis dans la préparation du salon de Châtenois. Donc tout ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis après, on verra au printemps ce qui va de nouveau se découvrir.
Alors, vous le disiez, tout un tas d'associations, de cercles généalogiques qui seront sur place. Donc, c'est un samedi, dimanche, en février, les 13 et 14.
14 et 15.
Les 14 et 15 février. Différentes conférences également. Vous revenez sur les origines alsaciennes des Marx Brothers. Et qui plus est, ils sont juifs.
Oui, tout à fait, ils sont juifs. Et puis, une chose qu'on connaît, c'est que le papa des Marx Brothers est né à Merzwiller en 1859. Donc, c'est un petit peu le début de la saga. Ce brave monsieur est ensuite parti à Marmoutier avec sa famille, où ils ont vécu un certain temps là-bas. Et de là, il a émigré aux États-Unis. Il s'est marié et sont issus de ce mariage les cinq Marx Brothers, dont surtout les trois les plus connus, quoi, hein, Chico, Groucho et Harpo. Voilà, donc je vais un petit peu parler de cette saga, de comment ils ont évolué, dans quel milieu ils vivaient. Il y aura quelques grouchoïsmes qui sont notés comme tels, donc des phrases citées par Groucho qui titillaient beaucoup les gens. Quoi, hein, voilà.
Ils ont migré aux États-Unis,
d'abord sur la côte Est, c'est là qu'ils sont arrivés, à New York, et puis avec l'avènement du cinéma parlant, ben, ils ont migré aux États-Unis, mais côte Ouest.
Alors, un livre sur la généalogie d'Albert Schweitzer, il vient de sortir, il est tout chaud, il vient de sortir des éditions. Vous êtes l'auteur, 50 ans de recherche au minimum, alors vous n'êtes pas en continu, mais quand même des notes. Qu'est-ce qu'elle a de remarquable ou qu'est-ce qu'elle a d'insolite, la généalogie d'Albert Schweitzer? Alors, on rappelle Albert Schweitzer, 1875-1965, il est né à Kaisersberg, il est mort au Gabon et il a été prix Nobel de la paix en 1952. Voilà, je l'ai fait très rapidement.
Oui, alors je veux déjà rectifier quelque chose, c'est pas moi qui ai sorti ce livre. Je n'ai quasiment pas participé à l'étude généalogique, si ce n'est les cousinades dans le troisième chapitre, les cousins célèbres. Mais la genèse de ce livre est différente. Elle est d'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui ont collaboré à cet ouvrage-là. Il y a eu un premier ouvrage de sortie dans les années 75 sur Schweitzer. Il faisait 80 pages au titre du Cercle généalogique d'Alsace. Donc il y avait plusieurs contributeurs qui avait travaillé là-dessus. Premier ouvrage, 80 pages, très sympa. Les années passent et au fur et à mesure, on a eu de nombreuses contributions supplémentaires qui disaient, voilà, à tel endroit, moi j'ai encore tant et tant de généalogie en plus, j'ai cette branche-là que j'ai développée, etc., etc. Et ça a duré à peu près 40 ans où toutes les 2-3 semaines, on recevait un courrier qui complétait et à chaque fois qu'on publiait le complément, ben, d'autres gens se greffaient dessus en disant ben, « à partir de ce complément, j'ai encore des compléments, etc. etc. » Donc ça allait très loin et c'est arrivé au point où on s'est dit ben, « là, tous ces compléments, on ne peut pas les laisser éparpiller dans notre revue, donc il faut qu'on les rassemble, il faut qu'on en fasse un ouvrage. » C'est là où j'ai un petit peu participé, c'est-à-dire que j'ai lancé la confection de l'ouvrage, mais non pas l'étude généalogique. Quoi. Voilà.
Et ce livre est richement illustré. Ce sont des photos d'archives, des photos de famille. Comment est-ce que vous avez procédé ?
Oui, alors on en avait nous-mêmes et on était plusieurs fois à Gunsbach dans sa maison qui est maintenant un musée qui est très bien fait. Ils ont d'ailleurs agrandi, c'est superbe. On était en relation avec les archivistes locaux qui nous ont donné des photos, qui nous ont permis de les utiliser. Voilà, donc après, c'est les études généalogiques elles-mêmes et tout mettre en page, tout vérifier, tout indexer. C'est un grand travail qui nous a pris quand même 2-3 ans facilement pour boucler cet ouvrage une fois qu'on avait toutes les sources bien identifiées.
Il sera disponible justement pendant ce salon de la généalogie à Châtenois.
Oui, disponible. Oui, il sera à notre stand. Nous tenons un grand stand tout de suite à l'entrée du salon. Et voilà, il sera disponible à la vente, bien entendu, oui.
Alors, ce cinquième salon alsacien de généalogie, je le disais, il aura lieu à Châtenois les samedis 14 et dimanche 15 février. Les temps forts, alors on ne va pas pouvoir donner toutes les associations ni toutes les conférences. Les temps forts pour vous, le mieux évidemment c'est d'y être pendant les 2 jours, mais de venir à votre rencontre également. L'idée c'est l'échange hein, et vous prenez aussi, j'imagine, les témoignages oraux de vieilles personnes, par exemple, ou de gens qui ont eux-mêmes entendu. Donc, vous disiez, il faut toujours vérifier les sources.
Oui. Mais des vieilles personnes qui nous donnent des témoignages de leur vie ou de choses comme ça, ça, on n'en a pas tellement. C'est surtout l'échange qui se fait au stand avec déjà des gens des stands entre eux, parce que tout le monde se connaît un petit peu, c'est un petit milieu, des gens qui tiennent les stands et qui gèrent des associations. Mais après, c'est d'inviter toutes les personnes de l'extérieur et qui voudraient faire de la généalogie, venez, il y a sûrement un stand qui va vous convenir. Nous avons même un stand avec les gens de la généalogie Alsace-Maroc-Tunisie, donc il y a eu beaucoup d'Alsaciens qui sont partis là-bas, donc il y a des spécialistes sur cet aspect de la chose. Petite parenthèse, des ancêtres de Cécile étaient aussi partis en Algérie, donc ils sont mariés là-bas, etc. En partant des Vosges, hein, donc Voilà, donc on trouve plein de pistes. Si vous êtes bloqué quelque part, si vous avez des difficultés de lecture d'actes, parce que ce n'est pas si simple que ça, vous venez à notre stand, on a des spécialistes de lecture, à d'autres stands aussi, mais tant qu'à faire, je fais de la promo pour notre stand. Voilà, alors temps fort, si vous voulez voir Cécile Wolfrom, voilà, elle dira quelques mots. Ça, c'est le samedi matin, en fin de matinée, vers les 11h midi, elle sera là pour parler un petit peu. Et sinon, les deux jours sont très, très intéressants. Après, les conférences ne plaisent pas nécessairement, les thèmes ne plaisent pas nécessairement à tout le monde tout le temps. Donc, sélectionnez les conférences qui vous plaisent. Et sinon, la salle d'exposition, elle est ouverte en permanence. Vous pouvez y aller, revenir. C'est gratuit. Tout est gratuit.
C'est important de le dire, vous avez raison.
Bien sûr, pas les repas. Les repas, il faut payer un petit peu. Et il faut surtout s'inscrire au repas, si possible, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir honorer toutes les demandes. Voilà.
Écoutez, le rendez-vous est pris. On sait déjà ce qu'on fait le week-end du 14 et 15 février. C'est à Châtenois. C'est un très joli coin en plus. C'est pas très loin de Strasbourg. Et ça permet de s'ouvrir justement aux archives, aux recherches généalogiques. Et souvent de savoir d'où on vient, ça permet de savoir qui on est. Bertrand Rich, merci infiniment d'avoir répondu
à vous.
À mes questions. Écoutez, au plaisir de vous rencontrer autour d'une de vos nombreuses activités, que ce soit en tant que qualité de veilleur de mémoire ou aujourd'hui en tant que membre du Cercle généalogique d'Alsace.
Merci beaucoup à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.